On a un peu de Burkina Faso qui vient avec nous ce matin. Pasteur Elie, hein, de Bobo Dioulasso, c'est ça?
Bobo Dioulasso.
Hein? Et donc, on a quelqu'un qui c'est Bobo. Mais il n'est pas blessé.
Non,
ça
non.
Va. Hein? Et il est. Et c'est ça, c'est Bobo. Hein? Et donc, avec sa famille, avec Trudy. Et... Voilà, merci.
Et je commencerai par dire merci à Robert et toute l'Église pour l'occasion de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et chaque fois que je dois prêcher, je me rends compte que, de par la discipline, Dieu me bénit d'abord. Et chaque fois que je prépare quelque chose, je reçois quelque chose. Et vraiment, c'était l'occasion pour moi encore d'être renouvelé dans le Seigneur. Et merci donc pour l'occasion de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, j'aimerais commencer ma prédication par un constat. Un constat sur lequel un serviteur de Dieu, dont je vais taire le nom, je ne vais pas dire le nom, nous a vivement interpellé au cours de la semaine. Et ce serviteur de Dieu disait, j'étais en Corée. Et là-bas, le dimanche matin, il faut un policier souvent pour réglementer la circulation, tellement que beaucoup de gens sont en train de partir à l'église. Il disait encore, j'étais en Éthiopie, à Addis Abeba, et là-bas, il y a des petits minibus qui sont remplis de gens. Le dimanche matin, ils sont tous en train de partir à l'église. Il disait encore, j'étais au Rwanda, et quand le soleil se lève, les familles se lèvent, ils sont aussi, la première chose, c'est se diriger à l'église. Et je ne vais pas encore dire le nom du prédicateur. Il disait, en France, qu'est-ce qui se passe? Le matin, les rues sont désertes. Les gens font la grâce matinée. Et ceux qui se lèvent, c'est pour courir un peu, faire le sport, ou avec un chien à quelque part. Et cette remarque m'a touché, je ne sais pas, est-ce que vous faites le même constat? Je pose la question, est-ce que vous faites le même constat? Donc, ce prédicateur, il avait raison, alors donc, je peux dire un peu par rapport à lui, ce prédicateur, il est anglais. Je n'ai pas dit son nom. Et effectivement, ce constat est réel et cela nous montre encore combien est grand le défi qui s'impose à l'église évangélique en France. Et nous sommes en début d'année, c'est le deuxième dimanche de l'année. Et pendant cette période, c'est une période où les gens se font des vœux. Il y a des vœux de tout genre. Et nous respectons aussi la même tradition au Burkina Faso. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer notre attention, c'est un vœu qui est très familier au Burkina. Et ce vœu, j'avais des difficultés avec ce vœu au début parce que je ne comprenais pas. Et en bobo, dans ma langue, on dit « Wurokata doza terena » ou bien « Anjula »« Alaka uke sanwere djonye » ce qui se traduit par le fait que Dieu fasse de toi l'esclave de la nouvelle année, quand on traduit littéralement. Et imaginez que, en tant que pasteur, déjà, je devais entendre peut-être ce vœu le premier dimanche du mois, près de 500 fois. Les gens passent parce que là-bas, après le culte, comme si c'est ici, Rob devait se tenir dehors, devant, après le culte. Et toute l'église devait passer te saluer. Donc on passe, on te salue. Que Dieu fasse de toi l'esclave de l'année prochaine. Que Dieu fasse de toi l'esclave de l'année prochaine. Et tu dois attendre ça 400 à 500 fois. Donc, c'était un peu difficile. Mais après, j'ai compris que ce vœu n'était pas mauvais en tant que tel. Parce que le mot que j'ai traduit par esclave, ça réfère également au mot doulos en grec. Que Dieu fasse de toi le serviteur de l'année prochaine. Que Dieu fasse de toi le disciple de l'année prochaine. Donc, que Dieu, pour résumer, que Dieu te permette de traverser l'année prochaine en paix. Donc, quand j'ai compris cela, je pouvais maintenant répondre Amen, 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 quand on me fait ce vœu. Donc, c'est ce vœu que j'aimerais souhaiter à l'église de Ouagrain ce matin. Oui, que Dieu fasse de vous, chacun de vous, des doulos de l'année 2014. Oui, des doulos qui vont contribuer à relever, je dirais, les défis qui se posent à l'église évangélique en France et plus particulièrement ici, dans, à Ouagrain. Et être doulos de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se limite à un souhait. Ce n'est pas parce que je vous souhaite ça que vous serez forcément des doulos. Il faut d'abord une attitude. Être doulos de Dieu, il faut une attitude. Il faut aussi une action. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous lisons dans Marc le chapitre 11. Marc le chapitre 11, du verset 12 au verset 14. Et nous allons sauter jusqu'au verset 20 au verset 24. Et j'ai demandé à Claude s'il peut se lever et nous lire ces deux textes.
Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, « Que plus jamais personne ne mange ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as mouillé est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi, Moula, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. »
Merci, que le Seigneur bénisse sa parole. Et chaque fois quand je pense à ce texte, ça me fait un peu sourire. Nous voyons Jésus qui a ici affaire à un figuier. Je me dis, bon, il a fini maintenant avec les pharisiens, il a fini avec les scribes, c'est maintenant aux arbres qu'il est en train de s'attaquer. Oui, nous voyons Jésus qui maudit ce figuier. Et qu'est-ce qui se passe? Ce figuier qui a séché. Et c'est sur quoi j'aimerais attirer notre attention dans ce texte, c'est le verset 13, la deuxième partie. Il a dit, ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Mais comment Jésus peut-il alors maudire ce figuier? Tu sais que ce n'est pas la saison des figues et tu le maudis. L'idée qui nous vient à l'esprit, on peut se demander, est-ce pas trop dur? Est-ce que ce n'est pas une sanction trop dure de la part de Jésus? Ce n'est pas la saison des figues. Pourquoi s'en prendre alors, s'attendre alors à des fruits? Oui, ça c'est un tas de questions que l'on peut se poser lorsqu'on aborde le texte par rapport à l'attitude de Jésus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, les figuiers étaient des arbres qui produisaient généralement deux fois par an. Oui, deux fois par an. Et je ne sais pas si les Anglais sont là, il est question de last spring et early autumn. J'ai lu ça dans un commentaire quelque part. Donc, ils produisaient deux fois par an. Et le figuier aussi est un arbre, et lorsque, au fur et à mesure que les feuilles poussaient, les fruits se formaient à tel point que lorsque vous voyez un figuier avec des feuilles, nécessairement il devait avoir des fruits. Et il a dit aussi que lorsqu'on essaie de voir pour le commentaire par rapport au cas présent, il a dit qu'il était trop tôt dans la saison pour que paraissent de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits. Et aussi, il y avait certains figuiers qui, en hiver, quelques rares figuiers qui conservaient leurs feuilles, mais ces figuiers aussi avaient toujours généralement des fruits. Mais ici, nous voyons déjà que en maudissant ce figuier, Jésus n'avait pas tort en tant que tel, parce que ce figuier, bien que ce ne soit pas la saison des figues, qu'est-ce qu'il y avait? Ce figuier présentait des signes de fruits. Il présentait des signes de fruits. Il n'est donc pas innocent comme on le croirait de prime abord. Mais ce qui est là, la grande question est: quel est l'enjeu de ce message? Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par cet acte? Et lorsqu'on essaie de voir, on peut dire qu'il s'agissait à l'époque des religieux. Il s'agissait à l'époque des pharisiens. Il s'agissait à l'époque des scribes. Et le texte qu'on a sauté au milieu, Claude n'a pas dit ça. Voyons ce que Jésus a fait dans les temples. Le temple de Dieu, qui était supposé être le lieu d'amour, le lieu de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on avait fait du temple? C'était devenu un lieu de brigands. Donc nous voyons entre cette histoire où Jésus il chasse les vendeurs du temple, ma maison sera un lieu d'adoration. Et vous en avez fait un brigand de caverne. Donc nous pouvons rapporter cela aux religieux de l'époque qui avaient des actes religieux. Ils allaient au temple, ils faisaient des sacrifices, mais l'essentiel n'était pas là. L'essentiel, ce sont les fruits d'amour. Donc, on peut dire aussi, il s'agit de moi ce matin. Il s'agit aussi de toi. Il s'agit de notre capacité, en tant que chrétien, de porter des fruits pour les autres. Oui, en tant que chrétien, porter des fruits pour les autres. Oui, car comme ce figuier, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous montrons déjà des signes de fruits. Et ces fruits, nous devons les porter pour les autres. Et aussi, il y a la question du moment. Quel est le moment opportun où l'on doit donner des fruits à ceux qui en ont besoin? Quel est le moment opportun? Je vois là deux réponses possibles. La première réponse, c'est la logique du figuier. Et cette logique, c'est de donner des fruits au moment où ça me convient. Je donne des fruits au moment où ça m'arrange. Mais il y a aussi la logique du Christ qui consiste à donner les fruits au moment où l'autre en a besoin. Ce n'est pas où le moment où ça m'arrange, mais le moment où l'autre en a besoin. Mais malheureusement, ce que l'on constate aujourd'hui dans notre monde et de par notre nature humaine, c'est souvent la logique du figuier qui prédomine. Oui, je le vais bien au moment convenable pour moi. Je le vais bien si ça ne me dérange pas trop. Oui, le moment des fruits, donner des fruits, ce n'est pas à nous de choisir, mais c'est quand l'autre en a besoin. Et ne sachant pas, quand l'autre en a besoin, qu'est-ce que nous devons faire? Porter des fruits continuellement, en tout temps. Qu'il y ait des fruits en tout temps. Oui, ce n'est pas une question d'être chrétien bien pratiquant. Ce n'est pas une question d'être un pilier au niveau de l'Église. Mais la question est de savoir si oui ou non, je porte des fruits pour le Seigneur. C'est cette question qui est fondamentale. Est-ce que je porte des fruits pour le Seigneur? Oui. Nous sommes donc bien, je dirais, dans la même problématique que celle du figuier. Jésus voit un figuier couvert de feuilles. Il voit aussi un homme religieux, plein d'actes religieux, plein de sacrifices, plein de bonnes œuvres faites dans le temple, dans l'église. Jésus espère y trouver des fruits, de l'amour. Est-ce que lorsqu'il s'approche, il y trouve? Il ne trouve pas parce que ce n'est pas le moment. Nous sommes en cours de semaine. Le dimanche est encore loin. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans beaucoup de nos églises évangéliques, je dirais, en Afrique et peut-être ici aussi en France. On porte les fruits le dimanche. Non, ça, c'est la logique du figuier. Et nous connaissons ce qui est arrivé au figuier. Parce qu'il n'a pas porté de fruits, il est devenu sèche. Et Satan également, lorsque nous demeurons sans fruits, nous allons tendre inévitablement vers cette sécheresse spirituelle. Soyons donc dans la logique de Jésus. Portons des fruits à la maison. Pour notre famille, portons des fruits à la maison, pour nos voisins. Que disent nos voisins de nous? Que chacun se pose la question. Qu'est-ce que mon voisin dit de moi? Si je devais demander à mon voisin, qu'est-ce qu'il dit de moi? Oui, portons des fruits. Quand nous sommes dans la circulation, dans la voiture, dans le bus, dans le métro. Et lorsque j'étais en train de préparer ce message, il y a une idée, une image qui m'est venue. Je disais, par exemple, je suis dans le métro, que je ne prends pas d'ailleurs, et que je vois quelqu'un qui est là avec son sac tribalant, et que je me lève, je l'aide à poser son sac, et je m'assois, je lui donne une place, je m'assois à côté de lui. Imaginez l'attitude de la personne. C'est un cœur ouvert que je peux bombarder avec l'évangile. Oui. C'est très important, oui. Et quand je descends, vraiment content d'avoir servi le Seigneur. Oui, portons des fruits partout où nous sommes. Oui, des fruits au service pour nos collègues. Portons des fruits partout où nous sommes. Et il faut aussi savoir que la question du temps était importante pour les juifs à l'époque où Jésus a fait cet acte. Parce que lorsqu'on essaie de voir en Marc le chapitre 3, Marc le chapitre 3 du verset 1 au verset 6, Marc le chapitre 3 du verset 1 au verset 6, voyons que dans ce texte que Jésus a eu une grande discussion avec les pharisiens sur l'opportunité de guérir cet homme qui avait la main sec le jour du sabbat. Les pharisiens disaient, ce n'était pas le moment. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a répondu, c'est toujours le moment d'aider quelqu'un lorsqu'on le peut. Il a transgressé l'ordre religieux qui interdisait de faire un acte d'amour. Encore, je vois ici une illustration exacte de l'histoire du figuier. Jésus, il ne respecte pas les temps juifs. Il guérit parce que l'homme qui est devant lui est malade. L'homme qui est devant lui a besoin de guérison et il le guérit. Oui, lorsqu'on voit encore dans Genèse le chapitre 3, le verset 7, Genèse le chapitre 3, le verset 7. Nous voyons là encore, il est question de feuilles de figuier. Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils se sentaient imparfaits après avoir désobéi à Dieu. Ils se sentaient imparfaits, ils se sentaient pécheurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient masquer eux-mêmes leur imperfection. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier afin de paraître parfaits. Ils voulaient cacher leur nudité. Ils voulaient cacher leur honte. avec encore ici, nous voyons des feuilles de figuier. Oui, je dirais des feuilles de figuier pour Adam et Ève. Et pour nous aujourd'hui, les actes religieux, la bonne conscience, je dirais à bon marché. Et pour Adam et Ève, nous voyons que Dieu, il a refusé cela. Il n'a pas accepté les feuilles de figuier. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont été couverts de peau d'animaux. Les sacrifices, la notion de sacrifice. Oui, pour nous aussi, Dieu refuse cela parce que c'est lui et lui seul qui peut ôter notre imperfection. Ni nos actes religieux, c'est lui et lui seul. Oui, c'est lui qui pardonnera le péché après qu'on lui ait montré cela. Oui, ce que Dieu attend de chacun de nous, je dirais, ce n'est pas la religion, de la bonne conscience. On fait de la religion pour avoir une bonne conscience. Ce n'est ni la religion de la culpabilité où on est là à s'accuser à tout moment. Ce que Dieu attend de nous, ni la religion, mais c'est la relation, dis bien, la relation où l'on dit « Oui, Seigneur, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas autosuffisant. Il faut que je donne des fruits, mais je ne peux pas faire de cela de moi-même. Pardonne-moi et soutiens-moi. » Et je crois que ce n'est que seulement en ce moment que Dieu couvrira notre honte, comme il l'a fait pour Adam et Ève avec ses peaux. Oui, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous ce matin. Et lorsque nous voyons encore dans l'histoire du figuier, voyons que les disciples étaient étonnés. Après, ils sont partis, il a chassé les gens du temple, et ils repassaient encore là le même jour. Et Pierre, il voit que le figuier a desséché. Il dit, maître, Seigneur, le figuier a desséché. Et qu'est-ce que Jésus dit? Si vous aviez de la foi, vous arriverez à dessécher ce figuier. Et même faire des choses plus grandes. Comme dire à cette montagne d'aller se jeter dans la mer. Et la question, quel intérêt avons-nous à dessécher un figuier? Quel intérêt avons-nous à jeter une montagne dans la mer? Je vois absolument aucun. Ce que Jésus nous dit là est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, si nous avons suffisamment de foi, nous serions capables de tuer les figuiers stériles qui habitent nos vies. Si nous avions la foi, nous serions capables d'enlever les branches stériles, les branches et mortes qui sont dans nos vies, qui gênent notre marche avec le Seigneur, qui nous empêchent de porter des fruits. Oui, si nous avons la foi, nous serons capables de détruire dans nos vies ce qui ne produit pas des fruits d'amour. Oui, si nous avons la foi, nous serons capables de jeter toutes nos montagnes d'égoïsme dans la mer, au fond de la mer. Nous serons capables de jeter toutes ces montagnes de spiritualité, je dirais spirituelles, au fond de la mer. Oui, jeter à la mer tout ce qui est obstacle à Dieu, au fond de la mer, où nous n'allons plus les voir. Oui, comme l'annonçait Ésaïe, dans Ésaïe le chapitre 40, verset 4 au verset 5. Ésaïe le chapitre 40, verset 4 au verset 5, la deuxième partie, il est dit que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs s'échangent en terrain plat et les escarpements en vallon. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra. car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, que toutes ces choses soient aplanies, que Dieu soit pleinement dans nos cœurs, et c'est là que nous allons porter des fruits. Et ce n'est pas une chose facile, doter de nous cette tendance à ne produire des feuilles comme le figuier. C'est une tendance qui est là, naturelle. Car de manière que les feuilles profitent au figuier, notre bonne conscience, notre conscience des religieux ne nous est pas toujours désagréable. Par contre, les fruits, nous voyons que si on pense à l'arbre, au figuier, les fruits, ça épuise le figuier. Les fruits épuisent l'arbre. Oui, c'est tout ce que nous donnons aux autres. Donner aux autres, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais l'essentiel, c'est d'avoir foi en Dieu, comme je l'ai dit au début. Oui, pour faire disparaître de nous tout ce qui est inutile et ne laisser que l'essentiel. Et cela ne se fait que dans les secrets de notre intimité avec Dieu. C'est dans les secrets de notre intimité avec Dieu que cela peut se faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on monte sur le toit pour crier partout, mais dans les secrets de notre intimité avec Dieu. Et comme l'a dit quelqu'un, notre orateur de la semaine, dans l'obscurité. L'obscurité. Avec Dieu, moi et lui. Et comme il l'a dit également, dans l'incubation. Pensons à l'exemple de Jésus, à Gethsémané, seul avec le Père. C'était des moments durs, des moments durs. Pensez à Jésus à la croix, les 3 heures de ténèbres. Il y avait cette douleur physique, mais encore cette douleur spirituelle, cette séparation avec Dieu qui l'amenait. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les trois jours dans la tombe. Et après, c'était quoi? La gloire de la résurrection. La gloire de sa montée vers le ciel. Il y a eu cette préparation. Oui, c'est très, très important. Ce n'est pas facile. Oui, comme je le disais, l'essentiel, c'est d'avoir foi en Dieu. Et lorsque cette intimité, cette préparation dans l'obscurité est bien ficelée, ce sera par la suite, je dirais, des fruits de vie agréables que nos voisins vont manger, des fruits de vie que nos enfants et nos collègues dans la circulation, les gens vont chercher à manger. Et c'est l'éclosion, c'est la gloire. Oui, et j'ai encore quelques minutes, je vais terminer par un exemple qui s'est passé au Burkina. Et j'ai travaillé en tant comme directeur de radio, une radio chrétienne, dans ma ville à Bobo-Dioulasso. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait un de mes agents, le technicien, qui maîtrisait tout, et je suis venu en tant que directeur le trouver là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dans sa vie qui n'allaient pas. Et j'ai commencé à travailler avec lui et à essayer de le ramener à l'ordre. Et ça ne marchait pas. Et il faut dire que je faisais cela aussi parce que souvent dans nos églises évangéliques, renvoyer quelqu'un d'un travail, ça ne se fait pas. Donc j'ai essayé de travailler avec lui, ça ne marchait pas. Un beau jour, heureusement aussi pour noter que mon président du conseil d'administration, c'était un missionnaire américain, vraiment qui est aussi. Et donc, un jour, on a décidé de le licencier. Pour moi, ce n'était pas facile parce que je savais les conséquences qui venaient. Et après le licenciement, il y a eu beaucoup de choses. Mon président national de l'église m'a dit, non, pourquoi tu as fait ça? Tu as pensé à sa famille, tu as pensé à ses enfants. Et c'était des moments difficiles pour moi. Et même beaucoup de mes collègues pasteurs, quand je partais, je sentais qu'on discutait de la situation. Non, il se laisse diriger par les missionnaires. Et maintenant, j'étais convaincu que c'était la bonne décision. Il y a eu ces moments vraiment durs pour moi, ces moments de ténèbres. Même pas une semaine, quelques temps après, on n'a pas changé les programmes de la radio. C'était les mêmes émissions, c'était les mêmes prédications. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme vraiment un réveil dans les émissions de radio à Bobo. Et imaginez, je suis dans mon bureau et la secrétaire me dit, ah, quelqu'un veut vous voir. Il demande, est-ce que c'est urgent? Il dit, non, directeur, c'est urgent. La personne rentre. Et j'ai écouté telle émission. Vraiment, ça m'a fait, je vais donner ma vie à Jésus. Et il y en avait plein comme ça dans la semaine qui a suivi. On avait une émission qu'on appelait Heure de prière. Et on a ça les lundis, ça continue toujours. On prie pour les malades. Et après ça, plein de gens, sans contact physique, par les prières à la radio, étaient guéris. Un témoignage encore, il y avait un musulman, un élage, qui voyage beaucoup, et il avait payé une radio à sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu trouver que sa femme, par les émissions de la radio, avait reçu le Seigneur à la maison. Et c'était des moments difficiles pour la femme. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est élage. Il est converti, il est baptisé avec toute sa famille, ils sont dans l'église. Et il fallait passer par ces moments de décisions difficiles, par des moments de ténèbres, et il y a eu l'éclosion. Et aujourd'hui, si vous allez à Bobo, demandez dans les églises, quels sont les convertis de l'ARAC, la radio de l'Alliance chrétienne, vous allez en voir partout, dans toutes les églises, Assemblée de Dieu, Alliance chrétienne, Baptiste, ils sont partout. Et je me rappelle encore à cette époque, vraiment, quand je marchais au marché central de Bobo, c'est comme si je marchais sur les nuages. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a deux radios islamiques à Bobo. Et dans les marchés, c'est la plupart des commerçants sont des musulmans. Ils laissaient les radios, c'est notre radio, car partout où je passais, j'entendais les prédications qui partaient partout. Il fallait passer par les ténèbres. Et après, il y a eu la gloire. L'éclosion. Même après, on a eu un problème financier. Et comment terminer l'année? Mais avec cette expérience, on a placé notre confiance en Dieu. On a eu une fois où on a prié. Et ce jour, on a prié. Et bon, si j'ai dit que j'avais la foi, je n'aurais pas dit la vérité. J'ai menti. J'aurais menti. Donc, j'ai dit des mots à Dieu par rapport à ça parce qu'il fallait terminer l'année. Et la radio, elle consomme beaucoup pour le courant. Et ça demande beaucoup de budget. Et on n'avait plus rien dans la caisse. Et quand on a fini de prier, je suis sorti dehors. Et j'étais vraiment découragé. C'est vrai qu'il y avait des conversions, mais j'avais ces soucis financiers. Et je vois quelqu'un qui est rentré à vélo, que je connais, un de la Brousse, et de l'église de Brousse. Il est venu et il a demandé, il nous a salué. Il dit, je veux me voir. Je disais, ah, voici quelqu'un encore qui vient pour me créer des problèmes parce que au Burkina, quand tu es directeur de radio, tout le monde pense que les gens viennent toujours, je veux ça, voici une ordonnance, il y a toujours la demande. Donc, avec ces soucis, je n'ai même pas pris le temps de rentrer avec cet homme dans la maison. Je l'ai amené sous un arbre à côté pour le recevoir. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Et il commençait à me dire, bon, peut-être que je vais le déguiser. Quelqu'un, il avait, les pantalons étaient troués et son vélo, Le pneu était éclaté devant, il avait attaché. quelqu'un vraiment, je dirais, pas bien habillé. Donc je me suis arrêté avec lui, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a dit. Bon, oui, il est intéressé, il aime vraiment écouter la radio. Je dis oui, c'est bien. Et j'étais en train de réfléchir sur ma tête, il aime les émissions. Et j'étais en train de voir comment je vais lui répondre poliment que je ne fais pas de lui comme animateur à la radio. C'est ça qui était dans ma tête. Il dit, bon, il aime les émissions de la radio. Il dit, bon, oui, ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Et il dit, bon, j'ai pensé à ça. Et il a mis la main dans la poche, il a sorti 1000 francs neufs. 1000 francs par rapport, il pouvait utiliser pour réparer son vélo. Il pouvait utiliser ça pour se payer un pantalon. Et c'était un bien neuf. Quand je vois son état, et j'ai eu des larmes sur le champ. Et quand j'ai pris ça, il lui a dit merci. Je suis parti dire à ma secrétaire, Madame Dakio, Dieu a répondu à notre prière, mets ça dans la caisse. Et par la suite, on ne sait même pas comment ça s'est passé. On a terminé l'année avec de l'argent qui restait. Oui, Dieu, car vraiment on reste avec lui dans l'intimité, les autres choses viennent par la suite. Donc je terminerai par dire par ma prière pour chacun de nous et chacun de vous pour cette année 2014, ici à l'église de Wavrin, et je vais le lire dans un Colossiens. Ça, c'est mon vœu, et que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient pour la pleine manifestation de la gloire de Dieu ici à Wavrin. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour qui tu es. Un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce qui nous a fait, Seigneur, de pouvoir te connaître. Merci, Seigneur, pour cette grâce de pouvoir te servir, Seigneur. Oui, Père, merci pour ta parole ce matin. Oui, cette parole qui nous interpelle tous, Seigneur. Oui, à aller au-delà des actes religieux, Seigneur. Porter des fruits. Oui, c'est pour cela que tu nous as appelés. Et c'est la mission, Seigneur, que tu as donnée à ton Église. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons confesser encore notre manque de foi ce matin. Et te prier, Seigneur, que tu viennes nous renouveler, Seigneur. Que tu viennes nous fortifier, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, chacun individuellement, de te chercher, Seigneur. D'être avec toi, Seigneur, de te donner, Seigneur, tout ce qui dans nos vies, Seigneur, peuvent être obstacles, Seigneur, à notre plein épanouissement. Que cela, Seigneur, soit jeté loin de nous, Seigneur, dans la mer. Que nous soyons, Seigneur, une terre vierge dans laquelle, Seigneur, tu vas émerger pour porter des fruits, Seigneur. Oui, donne-nous d'être les témoins vivants partout où nous passons. Que les gens te voient en nous. Que les gens te lisent en nous. De par nos paroles, nos actes, Seigneur. Même dans les circonstances difficiles, Seigneur, que nous puissions refléter ta gloire. Seigneur, soutiens l'Église de Wavrin. Tu vois combien il aspire à toi. Viens, viens, Seigneur. Viens dans ta grâce, viens dans ton amour, Seigneur, combler cette église. Qu'elle soit une flamme, Seigneur, que tu vas utiliser pour embraser toute la région, pour ta seule gloire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci.